J'ai apprécié la présentation, plus que d'habitude. J'apprécie toujours la présentation. Parce qu'il y a beaucoup de ce qui a été dit dans une lettre qui nous est adressée à nous, enfants de Dieu et chrétiens. Il s'agit de la lettre de 1 Jean, la lettre première épître de Jean. J'ai en méditation dans cette lettre depuis quelques temps. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un partage de cette lettre? Mais il y a tellement à dire. Et beaucoup de choses ont été dites ce matin qui ressortent dans cette lettre. Il y a beaucoup de choses. Alors je me suis dit, bon, ben, on va voir, peut-être qu'on peut aller chercher telle chose, l'amour, on parle de l'amour, on parle de la haine, on parle de la lumière, on parle de beaucoup de choses. C'est une lettre, un genre assez, qui semble assez difficile. Quand on la lit comme ça, on dirait un peu brouillon. D'ailleurs, certains personnes qui étudient les textes ont trouvé que c'était, se sont demandé si vraiment c'était cohérent, si Jean n'avait peut-être pas bu un petit peu à ce moment-là. Mais non, c'est très cohérent, mais on s'en doute. Mais pour lire cette lettre, il faut qu'il y ait dans notre vie un fondement. Et c'est ce fondement qui est à la base de l'Église d'ailleurs, qui est à la base de notre Église, mais qui est à la base de notre vie personnelle. Et c'est ce fondement que je veux apporter ce matin, parce que c'est, j'allais dire, la porte, la clé, mais la porte qui nous permet de voir et de comprendre tout le reste. C'est le fondement qui nous permet de vivre une vie selon ce que Dieu veut. Cette lettre a été écrite pour les enfants de Dieu. Souvent, j'ai entendu, enfin, quelques fois, j'ai entendu, c'est une lettre pour se dire soi-même, tu vois, tu ne fais pas ça dans la lettre, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Parce que dans la lettre, c'est Jean qui s'adresse de la part de notre Seigneur, de notre Père, à ses enfants. C'est pour connaître si, bien sûr, nous sommes toujours dans le chemin de la vérité. Mais c'est une lettre aussi qui nous sera très utile, qui nous est très utile pour, effectivement, reconnaître le faux, le mensonge. Alors, quelquefois, du mensonge qui pourrait venir en nous, bien sûr. Et tout de suite, en lisant cette lettre, on se dit « Oh, je ne suis pas dans le chemin ». Et donc, on rectifie. Mais elle nous aidera aussi à reconnaître le faux, le menteur. Alors, ce n'est pas sur ça que je vais vous parler ce matin. Je pose un petit peu la lettre par elle-même. Parce que, on va commencer la lettre de 1 Jean. Je n'ai pas pris de transport, merci. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps. Et je me suis trouvé une excuse. Je me suis dit, il ne faut pas faire les habitudes. Donc, voilà. Mais non, je pense qu'il est utile, mes bien-aimés, de prendre cette parole dans vos mains. Soit en livre, soit en livre. Parce que... Bon, je vais m'écarter si je commence à... On va donc prendre la lettre de 1 Jean. Alors, on va prendre un court passage. Un court passage, ce passage, c'est ce qu'on appelle souvent dans une lettre un prologue, c'est-à-dire quelque chose qui est introduit. Et c'est justement ce fondement qui sera introduit. Chapitre 1er, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Jean, il n'y a pas de salutation, rien du tout. Il vient tout de suite, il vient annoncer, repositionner ce fondement que nous allons voir. Parce qu'il y a des dérives dans l'Église. Parce qu'il y aura des dérives dans l'Église. Parce que le fondement n'était plus annoncé. Il nous dit aussi que, au verset 13, que c'est ce qui permet d'être en communion avec le Père et avec le Fils. Et au verset 4, 13, j'ai dit, c'est 3, pardon, c'est tout petit. Et verset 4, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite, afin que nous soyons dans une joie parfaite, complète, accomplie. Alors certaines versions marquent notre, des fois votre, mais je pense que notre, c'est très bien parce que c'est, ça se relie bien avec la communion. Notre joie, ensemble. Ce qui était dès le commencement, Jean dit qu'il l'a entendu, qu'il l'a vu de ses propres yeux, qu'il l'a contemplé, qu'il l'a touché. Et qu'est-ce qu'il a touché ? Qu'est-ce qu'il a contemplé ? Qu'est-ce qu'il a entendu ? La parole de vie. De quoi Jean parle-t-il quand il dit ce qui était au commencement ? De quelle parole de vie parle-t-il ? Alors, il nous faut remonter jusqu'au début de cette parole. Genèse 1. Chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Le commencement dont parle Jean, dans l'Épître, c'est le commencement de toute chose. C'est le commencement qui vient d'être cité dans le livre de la Genèse. Dans le commencement, il y avait Dieu. Et Dieu a créé toute chose. Mais Dieu a créé toute chose comment ? Il est dit par sa parole. Dieu dit et la chose fut. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Littéralement, on peut dire que soit lumière et fut lumière. On peut aussi dire Dieu dit, dans certaines versions il est écrit, que Dieu dit que la lumière paraisse, que la lumière vienne, que la lumière entre, que la lumière vienne dans le monde. Mais Jean nous dit, si on revient dans ce qu'on a lu au départ, dans 1 Jean, Jean nous dit que cette parole a été manifestée. Qu'elle s'est révélée, qu'elle s'est rendue visible. Cette lumière, parole créatrice, elle s'est rendue visible, elle s'est manifestée. Ça nous est confirmé dans un autre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, toujours 1er, commencement. On va prendre Jean, l'évangile. Au commencement, évangile de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, par cette parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole, qui était Dieu et qui était avec Dieu. En elle, cette parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu. Jean dit qu'il a contemplé cette parole. Vous vous souvenez, dans 1 Jean, il dit qu'il a contemplé. Nous avons contemplé cette parole. Cette parole créatrice. Comment a-t-il pu la contempler? Je ne peux pas contempler une parole. À moins qu'elle se révèle, à moins qu'elle se manifeste. Un peu plus loin, au verset 9, dans Jean, il est dit, cette lumière, cette parole de lumière, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue ou ne l'a pas reçue pour. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Voyez-vous, cette parole, il est dit, elle est lumière. Et elle est venue dans le monde une deuxième fois. Puisqu'elle était à la création. Mais à la création, elle est partie. Les Hébreux, ou les Juifs, du tout, en parlent de ça. C'est surprenant, j'en parle souvent, comment, une fois que nous connaissons la vérité, comment ils sont près de la vérité, mais non pas la vérité. Les Juifs disent que Dieu, au moment de la création, à un moment donné, a pris cette lumière créatrice et l'a cachée. Et donc, c'est pour ça que cette lumière est venue dans le monde pour révéler la vérité. Verset 12. Elle est venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à quiconque, à n'importe qui, à ceux qui vont croire en son nom. Tiens, la lumière a un nom. La parole de vie a un nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui vont recevoir cette lumière, cette parole, vont devenir enfants de Dieu, seront appelés enfants de Dieu. Parce qu'ils sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On pourrait dire qu'ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Voilà pourquoi Jean a pu voir, contempler cette parole, cette lumière, parce qu'elle s'est fait chair. Verset 14, la parole originelle, la parole créatrice a été faite chair. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la parole a reçu un corps d'homme. Elle est venue dans un corps d'homme. Elle a été faite homme. On peut voir ça dans Philippiens 2, de l'apôtre Paul, qui dit que lequel, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et cette parole, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. As-tu reçu cette parole ? dans ton cœur? As-tu reçu cette lumière dans ton cœur? As-tu reçu celui qui est la parole faite chair dans ton cœur? Autrement dit, comme il est dit à tous ceux qui croient, crois-tu au nom du Fils de Dieu? Jésus a parlé à quelqu'un, lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui a dit, montre-moi le Fils de Dieu. Je le suis, moi qui te parle, il a dit. Crois-tu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Cette question est tellement importante parce que c'est le fondement même de l'Église, de la vie d'Église. Et c'est la révélation de Jésus dans le cœur de chaque vrai croyant. On a entendu ça ce matin. Peux-tu dire de ta bouche, ce Jésus que je connais, qui est venu sur une croix et qui est mort, est ressuscité, peux-tu dire c'est le Fils de Dieu? Je ne voudrais pas aller trop dans l'évangile, dans la lettre de Jean, mais il y en est question. De confesser de sa bouche que celui qui est venu, Jésus-Christ, qui est mort sur une croix, c'est le Fils de Dieu. Celui qui était annoncé et promis qui devait venir. Jésus a posé cette question à ses apôtres, du moins à ses disciples. Enfin, je ne sais pas si c'était disciples ou apôtres à ce moment-là, mais c'est bien d'eux qui est question. En Matthieu 16, verset 13, ses disciples, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns, ils disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et on pourrait rajouter, on pourrait dire certains disent, bah, c'est Jésus. Certains pourraient dire, c'est le Jésus des catholiques, d'autres, c'est le Jésus des protestants, c'est le Jésus du Coran. Oui, il y a question de Jésus dans le Coran. C'est le Jésus des bouddhistes, des hindouistes. Mais après, la question est toi. Leur dit-il, et vous, mais qui dites-vous que je suis? Toi, toi, dans ton cœur, ce matin, qui dis-tu que je suis? La question t'est posée. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ ou le Messie. Ça serait plus intéressant de dire Messie. Ça serait plus en accord avec l'Ancien Testament. Tu es le Messie, le Christ, celui qui doit venir, celui qui est loin, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, tu es dans la joie, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est intéressant que Jésus dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Il aurait pu dire, tu es heureux, Pierre. Non. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, toi qui es un homme parmi les hommes, tu as une révélation du ciel, de mon Père. Ça ne vient pas de toi. Tu as reçu cette révélation dans ton cœur. Tu as reçu cette lumière dans ton cœur. Tu as reçu cette parole dans ton cœur. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On peut avoir entendu, c'était mon cas, on peut avoir entendu, ou plutôt écouter, pendant des années, parler de Jésus, même Jésus le Christ, qui est mort sur une croix. Mais ce n'est pas pareil quand on a reçu du ciel cette révélation, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ceux qui ont reçu cette lumière, la parole, cette révélation dans leur cœur, ils sont en communion dès aujourd'hui, pour l'éternité, dans ce monde et pour l'éternité. Nous sommes en communion, nous pouvons être en communion. Cette communion est restaurée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, pas comme je viens de le lire maintenant. Jean doit dire, mais vous êtes dans la vérité. Vous avez la vérité. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pour que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Et notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Or, ce que tu entends ce matin, ce sont des paroles tirées de la Bible. Cette parole inspirée par l'Esprit Saint. Et c'est cela qui nous permet d'être éclairés par la lumière de vérité. Parce qu'elle est la parole de vérité et qu'elle est lumière. Est-ce que ce matin tu reçois cette lumière, cette parole, comme parole de vérité? Est-ce que tu reçois Jésus pour qui il est, le Fils de Dieu, venu du Père? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné l'autorité. C'est une autorité venant de Dieu. Il dit, tu es mon fils, tu es mon enfant. Nous sommes enfants de Dieu. Croire en son nom, c'est croire en qui il est. C'est croire également Dieu, car Dieu a rendu témoignage à son fils. Or, Jean n'est pas seul quand il dit « nous ». Il y a également Pierre, il y avait Jacques, mais tous les apôtres et tout, plein d'autres disciples. Mais il s'est passé quand même une chose, on peut faire confiance à la parole inspirée de l'Esprit. Mais on fait également confiance aux témoins de cette parole vivante, Jésus-Christ. Pierre nous dit, ce n'est pas dans 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Parfois, je me demande si on a vraiment vu le Seigneur. Parce que si on a de la difficulté, une fois de plus, à le confesser devant le monde, alors peut-être qu'on ne le connaît pas. On n'a pas rencontré. Il y a de ça dans 1 Jean. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon affection, tout mon amour. » Et nous, Pierre, Jacques et Jean, c'était les trois qui étaient présents sur la montagne, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voyez, c'est important, il est question du cœur. Est-ce que notre cœur est ouvert pour recevoir? Celui qui croit en son nom est né de Dieu. Il est né de la parole. Tout comme dans le commencement, où toute chose est née de la parole, il est né de l'esprit de vie. tout à l'heure en présentation, il a été dit, si tu as un fardeau dans le cœur, il faut le dire. Et j'ai un fardeau. Enfin, merci Seigneur. Une sœur comprendra pourquoi. Mais j'ai un fardeau, pas pour moi, mais pour mes frères et sœurs. Quand on voit des frères et des sœurs qui viennent et qui disent « Je n'ai pas l'assurance du salut. Je ne sais pas où je vais après. Je ne sais pas si je meurs ou je m'en vais. » Mais gloire à Dieu, la parole dit que si tu crois au Seigneur Jésus, si tu le confesses, si tu as cru qu'il est venu du Père, qu'il est sorti du Père et qu'il est remonté au Père, alors tu es sauvé. Et non seulement tu es sauvé, mais tu as également reçu le Saint-Esprit en toi. Le malin va toujours essayer d'influencer les pensées en disant « Mais non, tu n'es pas sauvé. » Mais la parole nous a fait une promesse. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Celui qui croit au Jésus de la parole de la Bible, il a la vie éternelle. Ce n'est pas... On n'est plus dans l'Ancien Testament. Un jour, j'ai le Saint-Esprit. Un jour, il s'en va. Un jour, j'ai le Saint-Esprit. Un jour, il s'en va. Celui qui a cru a reçu le Saint-Esprit en lui. Nicodème, Jean 3. Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Peu plus loin, 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, c'est naître d'en haut, de l'Esprit Saint. Un peu plus loin, verset 8, il dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Comment cela peut-il se faire, dit Nicodème. Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment en croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Naître de la parole, naître de l'esprit, verset 5. En vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Entendre la parole, ceux qui entendront la parole du Fils ressusciteront pour la vie éternelle. Vous savez, tant qu'on n'a pas reçu la vie, on est mort. Tant qu'on n'a pas reçu la parole de vie, on est mort. Quand on a reçu Jésus-Christ, la parole de vie, la lumière de vie, la vérité, tu es né. Tu es un enfant de Dieu. Et tu l'es pour l'éternité. Tu es né de l'Esprit, tu as reçu le Saint-Esprit, et tu es un enfant de Dieu. Et pour l'éternité. Entendre la parole inspirée de l'Esprit Saint, la recevoir, la croire, c'est y mettre sa confiance, c'est mettre foi en la parole qui donne vie, car ce sont des paroles d'esprit qui vivifient. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend venant de la parole de Dieu. La vérité. Cette parole va venir illuminer, éclairer, donner de l'intelligence à ton esprit. Il va en plus revivifier, ranimer ton esprit, le faire naître. Cela va donner vie à ton esprit. Cette parole va ouvrir les yeux, parce que nous sommes tous aveugles de naissance, sans avoir été guéris par ce Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Psaume 119, 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Découvrir ta parole apporte la lumière, notre version. Elle donne du discernement aux gens ignorants. Alors c'est intéressant, le mot en hébreu pour révélation exprime le fait d'ouvrir, faire une ouverture, tout comme un encadrement de porte. On peut noter que Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples. C'est ce qu'il va faire en nous. Il nous ouvre l'esprit afin que nous puissions recevoir d'en haut. En fait, non, c'est de l'intérieur. Parce que tu as l'Esprit Saint en toi. Des fleuves d'eau vive couleront du son sein. C'est pas recherché à l'extérieur, c'est recherché à l'intérieur, rempli de l'Esprit. Luc 24, 44, c'est là que je vous disais lorsque j'étais, Jésus leur dit, alors j'ai pas le contexte, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il est question de Jésus dans tout l'Ancien Testament. On a un petit peu de temps, je voulais faire vite en plus. Là, c'est ce que les Hébreux appellent les Juifs, le Tanakh. Jésus le cite. S'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, la Torah, dans les prophètes, Nevim, et dans les psaumes, Ketuvim, Tanakh. Ils appellent ça le Tanakh. Alors il leur ouvrit l'esprit, Jésus. Il leur ouvrit l'esprit, l'intelligence, l'entendement, leur donner la faculté de comprendre afin qu'ils comprissent les Écritures. Je suis obligé d'insister sur la répétition des mots. L'association de la parole qui est inspirée et de l'Esprit Saint nous révèle, dis-le plus haut, Christ. Nous révèle le Fils et la volonté de Dieu. Jésus a dit une parole magnifique aussi, dans Jean, enfin il dit que des paroles magnifiques, Jésus. Même quand il dit, si vous ne croyez pas en moi, vous allez en enfer, c'est magnifique. Oui. Parce qu'il est venu pour sauver. Ça dépend tout comment on reçoit la parole. Jean, chapitre 6, verset 40, la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alors Manuel, je ne comprends rien du tout, parce que tu viens de me dire qu'on est ressuscité, mais non, tu dis au dernier jour. Bah oui, parce qu'on va mourir quand même. Parce que c'est le corps qui meurt. Mais à l'intérieur de toi, tu as l'esprit qui est vie. Et parce que nous sommes en lui. Et ça, c'est important aussi. Nous sommes en Christ. Crois-tu que Jésus est le Christ, le Fils unique de Dieu? Crois-tu? Lui as-tu ouvert ton corps, ton cœur, pour le recevoir? Lui as-tu ouvert la porte de ton cœur? Es-tu venu à lui? Avec un cœur honnête et bon. J'ai vu, j'ai pas été écouté, mais qu'il y a quelque temps, on a parlé de la semence. Où est-elle tombée? Est-ce qu'on est là pour écouter sur le chemin du monde et ensuite piétiner ce qui a été donné? Est-ce qu'on est trop occupé par les choses du monde pour que ça ne prenne pas, que ça ne grandisse pas? Venir à lui, c'est de la conversion. Les Juifs appellent ça la teshuva. La teshuva, c'est quoi? C'est faire demi-tour pour revenir devant Dieu, revenir à lui. Et ce matin, on a entendu une belle parole. Vous savez, on est dans le tabernacle le mardi. Le premier endroit où Dieu nous rencontre, c'est à la porte. Et à la porte, il y a quoi? L'autel d'airain. Le premier endroit où Dieu nous rencontre, c'est à la croix. Le premier endroit que Dieu te rencontre avec toi, personnellement, c'est à la croix. Ce Jésus, le Fils de Dieu, qui a été crucifié sur une croix, pour toi. Alors c'est important de venir à Dieu. Pas juste comme cette parabole de la semence, être au loin et écouter de loin. Mais il faut venir. Il faut se convertir. Je n'ai plus ce passage qui est dit, c'est dans Actes. C'est pas tout de croire, il faut également faire une conversion. Les cœurs, quand ils se convertissent au Seigneur, il y a un voile qui est ôté. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 16. Et plus loin. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Voilà où on peut contempler le Seigneur. Dans cette parole, quand on la lit, ça nous parle. On contemple. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point de conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Sans Christ, pas de salut. C'est pas comme il a été dit, sans l'Église, pas de salut. L'institution catholique a dit, si tu n'es pas dans l'Église, tu n'es pas sauvé. Non. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne le prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et là, écoutez bien, c'était tout ça pour ce verset. Je répète, 2 Corinthiens, là, chapitre 4, verset 6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans ton cœur, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On est né de Dieu. Alors ça, je me suis pris une claque. Parce que je suis en discussion avec quelqu'un, je n'ai pas commencé à entrer là-dedans, mais... Alors, on l'a chanté aujourd'hui, est-ce que tu es sauvé parce que tu crois, ou est-ce que tu es sauvé parce que Dieu t'a fait naître de nouveau? Dieu t'aime, et il a tout fait en sorte pour que tu sois sauvé. On a pris un chant magnifique aujourd'hui. Il t'a vu. Oui, Abba Père, bien avant. Bien avant la fondation du monde, il t'a vu. Il m'a vu. Bien avant la fondation du monde, il a dit, je l'aime et je vais le sauver. Bien avant la naissance, il a dit, je veillerai sur lui pour qu'il entende ma voix, pour qu'il voie ma lumière et pour qu'il ait la vie éternelle en mon Fils Jésus-Christ. Peu importe ton passé, ta connaissance religieuse, Jésus t'a vu. C'est pas parce que je me souviens d'une sœur qui disait ça souvent. Et c'est valable pour moi et pour d'autres. Hein. C'est pas parce que je me souviens qu'elle disait son fils pensait que on était musulmans parce qu'on est né dans une famille musulmane. Non. Ça, c'est les héritages des pères. Mais la vérité, c'est qu'il y a un Dieu créateur à la base, une seule vérité, Jésus-Christ. Et c'est que par lui que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas parce qu'on a vécu, je ne sais pas, on pourrait prendre toutes les religions, le christianisme. Pas parce qu'on a vécu, qu'on est né dans une famille chrétienne, catholique, protestante, je ne sais pas, plein de noms, que l'on est sauvé. C'est un choix personnel de chacun, chacune, à connaître et entendre la vérité. Et ce matin, la vérité, tu l'as entendue. Mais tu dois prendre une décision. As-tu ce désir? As-tu ce désir de ce premier contact avec Jésus? Ce sont des choses grandes et spirituelles qui se passent, qu'on ne voit pas. Le vent souffle où il veut. Parce qu'on pourrait dire, ça, un enfant me dirait, mais moi je veux bien, mais tu m'as dit Jésus est au ciel. Oui, mais Jésus est présent. Sinon, ce matin, on a menti. Puisqu'on a dit, tu es au milieu de nous. On est d'accord. Mais nous savons qu'il est là présent, par son Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Christ. Jésus a dit, il est avec vous. Il sera en vous. Il est dit, Jésus est en nous. Mais Jésus est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Mais c'est le même. Les trois sont un. Alors cette rencontre, tu peux la faire. La question, c'est, est-ce que tu lui as ouvert ton cœur? Pour rencontrer quelqu'un, il faut être deux. Apocalypse chapitre 3 à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alors bien sûr, ces passages sont plus pour l'aveuglement que j'ai pris, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Peut-être ce matin, il faut demander au Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je te vois. Ouvre-moi les yeux sur ta vérité. Ouvre-moi les yeux sur ma condition. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Vous savez, là, c'est Jésus qui s'adresse à une église. Et donc, du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus rentre dans le cœur par le Saint-Esprit. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, comme je vous avais dit, c'est quand même un fondement pour le reste de la lecture de la lettre de 1 Jean. Si tu as reçu le Seigneur Jésus pour qui il est, si tu crois en son nom, tu es un enfant de Dieu. Et tu le restes. Tu es un enfant de Dieu. Et bien sûr, tout le reste de la lettre dépendra de ça. C'est une certitude, c'est dans la parole, c'est une promesse, et Dieu ne peut mentir. Alors il fera tout en sorte pour que tu marches droit. Et c'est merveilleux parce que nous avons prié Abba Père, nous avons un Père qui veille et qui nous reprend, comme dans la lettre de Laodicée. Peut-être il te dit... Là, ça va pas, tu n'es plus sur le chemin. Convertis-toi, retourne. Reviens à ton premier amour. Dans 1 Jean, c'est des versets qui sont gravés. N'aimez pas le monde. Oh, je suis dans Jean, s'il vous plaît. Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Reviens à ton premier amour. Tu as peut-être fait cette rencontre. Mais on a une tendance infidèle. On a une tendance à vite repartir. Reviens à ton premier amour. Voilà, je vais prier. Merci Père éternel que tu as envoyé ta lumière dans le monde, ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu as envoyé ta guérison dans le monde. Tu nous as ouvert les yeux à tous ceux qui viendront à toi et recevront ta lumière. Seigneur Tout-Puissant, je te prie que tu nous rouvres, tu nous redonnes la vue, que tu m'ouvres les oreilles, que tu détournes de moi tout ce qui pourrait m'empêcher de te voir, tout ce qui pourrait faire en sorte de m'éloigner de toi. Fais briller en moi la gloire de ton Fils Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Que nous restions attachés à cet appel. Un appel à revenir à toi pour avoir la vie éternelle, à recevoir ton Fils, ta grâce, ton salut. parce qu'en lui est la vie éternelle. Je te prie, Père, pour tous ceux et celles qui sont encore dans l'aveuglement, attirés par le monde, que tu les attires à toi, et qu'ainsi qu'ils reçoivent cette vie éternelle, et que nous soyons en parfaite communion avec le Père, le Fils, par l'Esprit. Amen.